Note à l'auditeur. Cet épisode comporte un vocabulaire et du contenu réservé aux adultes et pourrait ne pas convenir à certains auditeurs sensibles.
Benita Alexander était assise à la terrasse d'un bar sur un toit à Manhattan. Elle vidait son sac à un journaliste de Vanity Fair.
Je me souviens que je parlais sans arrêt. Et c'était comme un flot continu de paroles, et le journaliste m'écoutait avec tellement d'attention qu'il ne prenait même pas de notes. Et moi, je continuais à parler encore et encore.
Elle lui a tout raconté de sa relation avec Paolo. Elle a dit qu'elle avait brisé une des règles d'or du journalisme pour être avec lui, qu'il avait menti sur son divorce et qu'il avait dit que le pape allait les marier. Elle a tout déballé.
J'avais tellement à dire. Et au bout d'un moment, il m'a arrêtée et il m'a dit « C'est complètement fou, c'est une histoire incroyable, laissez-moi écrire un article, je vais vous envoyer des questions par courriel. » Et c'est comme ça que ça a commencé.
De retour à Brooklyn, Benita était une mère célibataire, endettée, sans emploi et sans assurance pour les soins de santé.
J'avais dépensé des milliers de dollars pour le mariage et il était censé me rembourser.
Même la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte, disant qu'elle était en or blanc serti de diamants et qu'elle avait coûté 100 000 $, avait été évaluée par un expert à environ 1 000 $.
Le monde s'écroulait autour de moi. Je n'avais plus rien.
Mais dès qu'elle commençait à s'apitoyer sur son sort,
je me disais « Non, Benita, ne te laisse pas aller, ressaisis-toi. » Je relevais la tête et je me concentrais sur la manière dont je pouvais révéler ça au monde entier.
Faire publier son histoire dans Vanity Fair était la première étape de son plan. Elle savait que c'était risqué de raconter publiquement son histoire. Sa famille et ses amis l'avaient prévenue.
Je savais que les gens allaient se moquer de moi, qu'ils allaient me remettre en question et douter de ma parole. Je savais qu'ils douteraient d'absolument tout, peu importe si c'était injuste, et qu'ils allaient s'en prendre à moi. Il fallait que je prenne le temps d'y réfléchir.
Mais elle avait aussi beaucoup d'informations que personne d'autre n'avait sur Paolo.
J'avais des preuves tangibles, des vidéos, des enregistrements audio, les messages qu'il m'avait envoyés. J'avais des tonnes de preuves, si on peut appeler ça comme ça. Je savais que si je rendais ça public, ce serait difficile pour lui de tout nier.
L'article de Vanity Fair a été publié sur Internet en janvier 2016. La réaction a été immédiate.
Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je recevais des courriels de journalistes, ma boîte de réception était pleine. Je n'arrivais plus à suivre les courriels, les messages, les appels.
Pour les gens qui avaient essayé de dénoncer Paolo à Stockholm, l'article du magazine Vanity Fair n'aurait pas pu mieux tomber.
Cet article qui est paru dans le magazine Vanity Fair est arrivé comme une véritable bombe, en fait. C'était quelques semaines avant le documentaire de Bosse Lindquist.
À peine une semaine plus tard, le documentaire en trois parties du journaliste Bosse Lindquist, baptisé The Experiments, a été diffusé à la télévision suédoise.
Macchiarini försöker knäcka en av medicinens största utmaningar.
Malgré tout ce qu'elle savait sur Paolo, Benita n'était pas préparée aux horreurs qu'elle a vues sur son écran de télévision.
Je me doutais fortement que les mensonges de Paolo transparaîtraient aussi dans sa vie professionnelle. C'est pour ça que j'ai décidé de parler. Mais je n'en avais aucune preuve concrète. Alors quand j'ai vu le documentaire, ça m'a donné la nausée. J'étais absolument scandalisée et je me suis dit « cet homme-là est un monstre ».
Les téléspectateurs suédois étaient tout aussi scandalisés.
So one scaffold is too weak.
Yes.
And the other is?
The other is with the holes inside.
Avec l'histoire de Benita publiée et le fait que toute la Suède suivait l'affaire à la télé, peut-être que justice allait enfin être rendue. Pour Wondery, je suis Anne-Sophie Roy et vous écoutez le Docteur La Mort, l'homme miracle. Sixième et dernier épisode, le brouillard des mensonges. En 2016, par une froide soirée d'hiver, le premier épisode de The Experiments, le documentaire de Bosse Lindquist, a été diffusé sur une chaîne de télévision publique suédoise. Le docteur Kalle Grinemo l'a regardé.
J'étais chez moi, mes beaux-parents étaient assis juste à côté de moi. J'étais tellement stressé. Je tremblais et j'avais mon téléphone à la main pour qu'on puisse s'appeler les uns les autres si jamais on voyait quelque chose de mauvais là-dedans.
Grinemo et les trois autres médecins à l'origine de la dénonciation avaient des doutes sur le film. Quand Boussa les avait contactés pour leur proposer d'y participer, ils avaient accepté, mais à contre-cœur.
On ne savait pas si on allait devoir rire ou pleurer parce qu'on ne savait pas ce serait quoi l'angle du documentaire. Alors on lui a répondu « Est-ce que vous comptez raconter l'histoire de Paolo Macchiarini, le fantastique chirurgien? Si c'est le cas, on ne veut pas participer au documentaire. »
La dernière chose qu'il voulait, c'était de prendre part à un autre récit élogieux sur Paolo.
Alors j'ai dit « Les gars, premièrement, on ne sait pas vraiment comment ce documentaire va aborder l'histoire. » Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a déjà tout perdu, pas vrai? Qu'est-ce qu'on peut perdre de plus?
Il avait plutôt raison. Alors maintenant que le documentaire allait être diffusé, ils souhaitaient désespérément que ce soit le coup de grâce qu'ils attendaient.
Där är Paolo Macchiarini, en av världens mest kända kirurger, i en av sina svåraste stunder.
And after about
Vers la moitié de la première partie, on s'est tous rendu compte que ça allait signer l'arrêt de mort de Paolo. Ce documentaire-là allait le détruire.
Grinemo a aussitôt appelé le docteur Simonson.
Oscar et moi, on était très proches. Donc je l'ai appelé et tous les deux, on s'est mis à crier. On était tellement heureux. On était fous de joie. On avait vraiment hâte que la deuxième partie sorte pour la regarder.
Les deux autres lanceurs d'alerte, les docteurs Mathias Corbaccio et Thomas Fuchs, regardaient aussi. Et leur réaction a été bien différente.
Je me souviens que j'étais au téléphone avec Thomas et on se disait que le documentaire était encore bien trop gentil. Tu sais, pourquoi il n'était pas allé plus raide que ça? Bossa Lindqvist avait travaillé son sujet pendant un an, mais on sentait qu'il prenait des pincettes. Il n'attaquait pas vraiment, il retenait ses coups.
Come on!
Sérieusement?
Corbaccio trouvait que le documentaire ne représentait pas l'horreur des opérations désastreuses de Paolo.
Mais ensuite, on a compris l'effet que ça avait sur l'opinion publique. En fait, tout le monde pensait que c'était une terrible histoire d'horreur. Et finalement, on a compris que ce documentaire-là était un véritable chef-d'œuvre.
En fait, ce procédé ne fonctionne pas vraiment.
Présentement, ce procédé en particulier n'est pas une solution viable en matière de greffe de trachée.
Mais même après la diffusion du premier puis du deuxième épisode du documentaire de Boussa, les gens à la tête de Karolinska semblaient toujours dans le déni. Simonson s'en souvient.
En fait, les membres de la direction commençaient toutes les réunions du matin en disant que c'était n'importe quoi.
Bullshit. This was not true. What was saying in the documentary?
Qu'est-ce qui était dit dans ce documentaire-là était faux, alors que c'était la vérité. Et puis ils racontaient que c'était nous les méchants de l'histoire.
We were bad people.
Le problème venait toujours des lanceurs d'alerte et pas de leur chirurgien vedette. Puis, le troisième et dernier épisode de The Experiment s'est sorti. Il révélait ce que Bayen, le premier patient à recevoir la trachée miraculeuse de Paolo, s'est fait dire quand il avait accepté de subir l'opération.
J'avais peur, j'étais terrifié. C'était la première fois que quelqu'un faisait cette opération-là.
Mais Paolo lui a dit que c'était sa dernière chance.
Il m'a dit sans hésitation qu'il n'avait jamais essayé ça sur un humain. Il avait essayé sur des cochons, sur des animaux. Alors si ça marchait pour les animaux, eh bien...
C'était un mensonge. Paolo n'avait jamais fait de greffe de trachée bio-artificielle sur des animaux avant sa première greffe sur un sujet humain, sur Bayen.
Le véritable tournant, ça a été après la diffusion du troisième épisode du documentaire. Quand c'est passé à la télé suédoise, l'indignation du public a atteint les sommets.
Même le président a menti, même le commissionnaire a menti, tout le monde a menti.
Cet épisode montrait aussi la dernière confrontation entre Boussa et Paolo.
Peut-être qu'il y a tout simplement un problème avec vos affirmations et vos prises de position. Mais Paolo, j'utilise simplement ma tête pour essayer de trouver des faits qui prouvent. Peut-être que vous auriez dû faire plus de recherches avant de faire l'entrevue. Arrêtons ici. On peut arrêter de filmer?
Il joue les indignés, il est tellement arrogant et moralisateur.
Quand Benita a regardé l'échange, elle a tout de suite reconnu son comportement.
C'est très mal poli. C'est votre façon de le demander qui est très mal poli. Je ne m'attendais pas à ça.
C'est le seul moyen.
Non, il y a des manières bien plus douces de demander ça.
Et il s'en va. Il fait toujours comme si c'était lui qu'on attaquait, comme si c'était aux autres de s'excuser, et il fait semblant de ne pas savoir de quoi on parle. En fait, il est complètement dans le déni. C'est exactement comme ça qu'il était quand on était dans mon appartement et que je lui posais des questions. C'est précisément cet homme-là que je regardais. Il agissait exactement de la même manière, avec la même posture agressive, comme s'il voulait dire « Comment osez-vous? »
Elle avait même donné un nom à ça.
J'ai appelé ça le brouillard. Dès qu'on en arrivait là, c'était comme être dans le brouillard. Aussitôt que je me disais que quelque chose ne tournait pas rond et que je lui posais des questions, il savait toujours retourner la situation en un clin d'œil. Sa réponse était tellement rapide et immédiate et avec tellement d'aplomb et d'assurance, c'est de la manipulation. Il arrivait toujours à me faire douter de moi. À chaque fois que je lui disais que quelque chose clochait, il avait réponse à tout. Et il était tellement sûr de lui, il me bombardait d'informations et de questions en me demandant pourquoi je pensais ça et quelles étaient mes sources. Il mène les gens en bateau, c'est un vrai manipulateur.
And that's classic gaslighting. It's total mind manipulation.
D'abord, l'article dans Vanity Fair, ensuite le documentaire particulièrement accablant de Boussa. C'était deux coups durs successifs.
C'était une vraie déflagration. Le couperet était tombé.
À ce moment-là, on a su qu'on avait gagné et que des têtes allaient commencer à tomber.
Après la diffusion du documentaire, le docteur Grinimaud se souvient des avis mitigés à Karolinska. Certains collègues le félicitaient, mais les directeurs, eux...
Ils ne nous regardaient pas, ils étaient fous de rage. Le vice-chancelier a envoyé un courriel à tous les professeurs de Karolinska en expliquant qu'il ne savait pas ce que Paolo faisait en Russie, etc. Donc, il n'était pas du tout au courant.
So he was totally unaware about it.
Le 23 mars 2016, l'Institut Karolinska a fini par renvoyer Paolo et l'enquête pour fraude scientifique a été rouverte. Les responsables ont dit qu'il y avait de nouvelles preuves à la suite du témoignage du patient russe dans le documentaire de Boussa. Grinimaud et ses collègues étaient scandalisés. Selon eux, Karolinska avait bien assez de preuves grâce au dossier qu'ils avaient remis.
Bien sûr, on l'avait déjà averti et on avait mis sur son bureau le rapport de 500 pages qui disait la même chose à propos des patients suédois. Donc, il était tout à fait au courant des complications.
Le seul élément nouveau, c'était que tout le monde était au courant de la vérité. Le vice-chancelier ainsi que le directeur de recherche et le secrétaire général du comité Nobel ont tous démissionné. La police suédoise a rouvert l'enquête criminelle sur les activités de Paolo. La police l'a convoqué plusieurs fois pour des interrogatoires. Au bout d'un moment, Paolo a raconté le récit héroïque du sauvetage de la patiente turque Yeşim Setir, qui l'avait ramené à la vie de ses propres mains en lui faisant un massage cardiaque. Paolo a raconté « Alors que tout le monde me disait d'abandonner, j'ai poursuivi le massage cardiaque. Et après un moment, son cœur s'est remis à battre. Dans un autre pays, dans un autre hôpital, dans une autre salle d'opération, elle serait morte. » Et il a ajouté « 3 ans plus tard, elle est toujours en vie. » Souvenez-vous, c'est cette opération, une chirurgie exploratrice, qui avait terriblement mal tourné. Paolo avait fini par lui enlever le poumon droit pour pouvoir la garder en vie. La police suédoise avait aussi interrogé la patiente Yeşim Setir en personne. Elle a dit à la police « J'ai passé 3 ans dans cette chambre. J'ai perdu mes dents. Je n'avais aucun problème aux yeux et maintenant j'en ai. J'ai eu beaucoup de médicaments différents, on me drogue. » C'est un véritable cauchemar. J'ai l'impression d'avoir été sacrifiée. Yeşim est morte en mars 2017. C'était la dernière patiente de Karolinska à avoir reçu la trachée en plastique de Paolo Macarini.
Je pense qu'à la fin, elle nous haïssait tous autant les uns que les autres. Et je crois qu'elle n'arrivait pas à faire la différence entre Paolo et moi, ni à comprendre qui était responsable de son état.
Paolo was and who...
who was responsible for what.
À mon avis, à ses yeux, on était juste une masse de gens habillés en bleu qui allaient et venaient dans sa chambre pendant ces années passées à Karlinska.
Combien d'opérations a-t-elle subi?
C'est l'un de nos réalisateurs, Nick Hassing.
191 opérations.
Et ça se situe où, ça, par rapport à la moyenne?
Les gens subissent peut-être un maximum de 5 opérations dans leur vie. C'est complètement fou. Quand elle est partie, on avait dû lui retirer quelque chose comme le corps de ses organes internes. À ce niveau-là, c'est presque une forme de torture.
Au printemps 2017, Benita Alexander a pris l'avion pour Stockholm. Elle avait commencé à tourner un nouveau documentaire sur ce qu'elle avait vécu avec Paolo. Son équipe de tournage était avec elle. Peu après son arrivée en Suède, elle a finalement rencontré les 4 lanceurs d'alerte en chair et en os. Dès qu'elle a rencontré le docteur Simonsson, le courant a passé.
Oscar ressemble à un gros nounours. Il est tellement gentil et rassurant. Je l'ai tout de suite pris dans mes bras et il m'a serré dans ses bras aussi. C'était tellement agréable de le rencontrer.
Au fil de l'entrevue, elle a commencé à voir une autre facette de sa personnalité.
Il était hors de lui. C'est ça qui m'a frappée tout de suite quand j'ai parlé avec les lanceurs d'alerte. C'était toute la colère et ce qu'ils avaient traversé dans leur combat pour montrer au monde le vrai visage de Paolo.
Toutes les difficultés que le docteur Simonsson avait dû affronter étaient toujours là, sous la surface.
Elle était très gentille et aussi plutôt humble. Elle avait l'air extrêmement fragile et je pense que je comprends pourquoi. Quand on se retrouve dans une situation comme celle qu'elle a vécue, c'est très difficile de rebondir.
Sans le savoir, on avait mené la même guerre. On s'était battu contre un homme qui semblait impossible à démasquer ou même à atteindre. Donc, découvrir qu'on n'était pas seul pendant tout ce temps-là et que d'autres personnes s'étaient donné la même mission, c'était magnifique.
En octobre de la même année, la police suédoise était prête à annoncer les conclusions de son enquête criminelle sur Paolo.
C'était important pour moi de savoir qu'il allait payer pour ce qu'il avait fait.
Les procureurs ont organisé une conférence de presse et Benita était déterminée à être là. Elle a repris un vol vers la Suède.
Quand je suis arrivée dans la salle, c'était plein à craquer de journalistes. C'était comme s'installer dans un petit cinéma avec des rangées de chaises. Il y avait une estrade sur laquelle on avait installé des micros. On avait l'impression d'aller voir un spectacle.
Benita s'est assise et a mis un casque pour avoir la traduction en anglais.
Des gens se sont succédés les uns après les autres sur l'estrade et j'essayais de comprendre qui étaient tous ces gens-là.
Pendant que les procureurs présentaient leurs conclusions, Benita a remarqué que son casque ne marchait pas.
C'était un peu frustrant parce qu'il parlait suédois. Mais l'un de mes réalisateurs parlait suédois aussi, alors je n'arrêtais pas de le regarder en sourcillant. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Et puis tout à coup, il y a eu un grand malaise dans toute la salle. On pouvait le sentir, ça s'entendait et ça se voyait. Tous les gens présents dans la pièce étaient abasourdis. À ce moment-là, je faisais de grands gestes à mon réalisateur et interprète. Je lui chuchotais tout bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils avaient découvert que Paolo avait bel et bien fait des expérimentations sur des sujets humains sans avoir fait d'essais sur des animaux avant. Et qu'il n'y avait effectivement aucune preuve que sa trachée bio-artificielle fonctionnait. Mais qu'il n'engagerait aucune poursuite.
Et j'étais sous le choc. J'étais tout simplement abasourdi, je n'en revenais pas.
La police avait conclu qu'il avait fait quelque chose de mal et d'immoral, mais il ne pouvait pas prouver qu'il avait commis un crime. Paolo n'était pas à la conférence de presse à Stockholm pour écouter les conclusions de la police. Mais peu après, il est revenu en Suède pour savourer sa victoire. La police suédoise a refusé d'engager des poursuites contre Paolo. Pendant ce temps-là, l'Institut Karolinska a conclu son propre rapport sur ce qui s'était passé. Paolo a été déclaré coupable de fraude scientifique. Mais il n'était pas le seul médecin à être déclaré coupable.
J'étais dans un centre de jardinage en train d'acheter des plantes avec ma femme.
Le docteur Corbaccio a reçu un appel le prévenant que d'autres lanceurs d'alerte, lui compris, étaient tenus responsables.
J'étais furieux, et Oscar aussi.
L'Institut avait conclu que trois des lanceurs d'alerte avaient co-rédigé avec Paolo plusieurs articles scientifiques qui contenaient de nombreux problèmes. Ils ont visé en particulier le docteur Grenimo. Le rapport avait conclu que Grenimo avait manipulé sans précaution des échantillons destinés à des biopsies. Pour sa défense, Grenimo a dit qu'il n'avait jamais manipulé personnellement les échantillons en question. Il les avait simplement envoyés au labo à la demande de ses collègues en qui il avait confiance. De plus, lorsque lui et les autres lanceurs d'alerte avaient découvert les erreurs dans l'étude, c'est eux qui avaient immédiatement travaillé à corriger le dossier et ils en avaient avisé leurs supérieurs. C'était dans leur plainte.
Imaginez à quel point c'est absurde. On découvre la plus grande fraude scientifique de toute l'histoire de la Suède, ou en tout cas des 25 ou 30 dernières années, et en gros, ils pensent qu'on a été négligent dans nos recherches. Ou qu'on a commis une faute professionnelle parce qu'on a rédigé un rapport pour dénoncer le fait que l'étude à laquelle on participait était frauduleuse.
Le rapport reconnaissait leurs efforts. Il disait « Tout le mérite revient aux quatre lanceurs d'alerte qui ont soumis cette plainte bien fondée et ainsi marqué le début de l'enquête. » Ils reconnaissaient aussi leurs propres erreurs. Le nouveau directeur de l'Institut Karolinska a signé une tribune libre dans le plus gros quotidien de Suède. Il a dit que les médecins qui tirent la sonnette d'alarme doivent être mieux protégés et que ceux qui l'avaient fait pour Paolo Macchiarini n'avaient pas été écoutés. Puis, il a présenté des excuses publiques aux quatre lanceurs d'alerte. Mais pour les médecins, des excuses publiques ne suffisaient pas. Le docteur Simonsen dit que le fait d'avoir été reconnu fautif par Karolinska faisait qu'il était presque impossible de recevoir des subventions pour ses recherches.
Ils essaient de nous affamer. C'est le plan de Karolinska, en quelque sorte. Ils l'ont déjà fait avec d'autres personnes avant nous. Ils sont très rancuniers. C'est ça le problème avec Karolinska, et on ne le sait pas quand on commence à travailler là-bas. Mais en gros, une fois qu'on a dénoncé des choses à Karolinska, ce n'est plus possible de mener des recherches.
La première question qu'on se pose, c'est si c'est à refaire. Est-ce que je le referais? Et j'en suis pas sûr, parce que le prix à payer est trop élevé. L'enfer que j'ai traversé à cause de ça a duré des années, même après la fin de l'histoire avec Macchiarini. Ça a continué pendant des années et des années. Je n'aurais jamais dû rester à Karolinska aussi longtemps. J'ai donné 10 ans de ma vie à cette institution-là. Pour moi, c'est une consécration d'avoir été accusé de négligence dans mes recherches par cette institution-là. C'est comme me faire traiter de nazi par un nazi. C'est complètement indécent.
Quand nous avons contacté l'Institut Karolinska, ils ont catégoriquement démenti avoir empêché les lanceurs d'alerte d'obtenir du financement pour leurs recherches. Mais ils ont aussi dit que les lanceurs d'alerte portaient le fardeau de leurs propres erreurs de recherche. « On ne peut pas lever toute accusation ni leur enlever toute responsabilité », ont-ils écrit. L'hôpital de l'Université Karolinska, une institution indépendante où les opérations se sont déroulées, ne nous a jamais répondu.
Bienvenue, Monsieur Paolo Macchiarini.
Peu après le refus de la police d'engager des poursuites contre lui, Paolo est retourné en Suède pour une entrevue avec la chaîne TV4.
How does this feel?
Quel effet ça vous fait d'être ici avec nous?
I am well.
Je vais très bien, merci.
Paolo est tranquillement assis dans son fauteuil au milieu du studio. Il porte une chemise noire, une veste noire et un mouchoir noir à pois blancs dans la poche de sa chemise. Ses cheveux sont coiffés sur le côté et il a une barbe de 3 jours. Son avocat est assis juste à côté de lui. Paolo est plus élégant que jamais et a plutôt l'air de bonne humeur.
Do you feel free and exonerated now?
Vous vous sentez libre et innocenté aujourd'hui?
Comme je vous l'ai dit, je suis très content que la police en soit arrivée à cette conclusion. Évidemment, c'est tout le contraire du portrait que l'on a dressé de moi publiquement ces derniers temps. Ils ont enquêté sur les faits avérés et ils les ont présentés tels quels.
Même lorsque le journaliste commence à creuser un peu plus, les yeux de Paolo restent parfaitement impassibles et son attitude est détendue.
De notre côté, les procureurs ont dit qu'ils auraient engagé les poursuites pour avoir agi sans autorisation et avoir enfreint la loi à 2 autres reprises, mais qu'il y avait une prescription. Que répondez-vous à ça?
J'ai bien peur de ne pas pouvoir répondre parce que je ne savais pas.
Il y a eu des enquêtes très sérieuses et très poussées sur le sujet, et elles disent le contraire?
Si vous voulez bien...
Par exemple, l'enquête de Jelas Plunt à Karolinska?
Laquelle c'est? Parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes.
Je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est celle-ci.
Je ne l'ai jamais vue.
D'accord. Je vais vous montrer quelques passages du rapport. Ça dit que les patients n'étaient pas en danger de mort, qu'il n'y avait pas assez de données scientifiques pour faire une greffe. Ça dit que ça allait à l'encontre de la rigueur scientifique. Et ça dit aussi que vous auriez dû avoir l'accord des comités éthiques. Et ça dit aussi que c'était une question de recherche et non de soins en vue de sauver un patient. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là?
Malheureusement, les archives médicales qui ont été analysées par la police disent complètement autre chose. Il faut bien faire confiance à quelqu'un et personnellement, j'ai choisi de faire confiance à l'enquête de la police.
À la fin de l'entrevue, il a dit qu'il avait une opération à pratiquer le lendemain à New York et une autre quelques jours plus tard. Mais qui sait s'il disait la vérité? En Russie, il avait déjà été renvoyé. Et sur ce, il a quitté Stockholm. Après la sortie de son documentaire, Bussa Lindqvist et Benita se sont vus en personne.
Je suis allé à New York quelques mois plus tard et je l'ai vu avec sa famille.
Ce n'était pas pour son histoire. Il voulait rencontrer Benita pour mieux comprendre l'homme qu'il avait passé un an à étudier. Ils se sont retrouvés chez Benita à Brooklyn. Bussa avait des questions que se posent sans doute beaucoup de gens.
Comment est-ce qu'elle a pu croire à ces mensonges scandaleux? Qui pourrait bien avaler que le pape allait célébrer son mariage, surtout quand on sait qu'elle était divorcée? Mais en discutant avec elle pour la première fois, j'ai très vite compris que c'était une femme très vive d'esprit, très intelligente, en pleine possession de ses moyens, et que le problème ne venait pas d'elle. Elle avait été dupée. Et j'ai compris qu'il fallait à tout prix que j'aille au bout des choses et que je comprenne ce qui lui était arrivé, parce que ça m'aiderait à comprendre ce que Macchiarini avait fait dans ses recherches. Je pense que le fait de comprendre ce qui était arrivé à Benita donnait un aperçu de comment il travaillait à l'université et dans le monde de la science. Il y avait des ressemblances entre la façon dont il avait dupé cette productrice de télé très intelligente et la façon dont il a berné tous ses professeurs d'université et ses scientifiques très haut placés.
Ça n'a pas été évident, et c'est pour ça que depuis, j'ai appris à faire abstraction des commentaires négatifs. Et il y en a toujours, quand je m'exprime en public, chaque fois que je raconte mon histoire. Je n'y prête pas attention, je suis faite trop solide pour ça maintenant. C'est ce qui a changé depuis 6 ans après ce qui s'est passé. Je suis bien plus forte que je ne l'ai jamais été.
Réaliser son documentaire a aidé Benita à panser ses blessures. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de sa fille. Elle a eu sa bénédiction pour continuer sa mission à chacune des étapes. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, Benita a toujours des questions sans réponse. Pour commencer, pourquoi a-t-il fait ça?
Personne ne peut lire dans ses pensées, donc on ne saura jamais vraiment pourquoi il a fait ça. Mais quand j'ai regardé à nouveau les vidéos et que j'ai vu toutes les surprises qu'il m'a faites, pendant tout ce temps-là, j'ai cru qu'il faisait tout ça par amour pour moi. Je pense que je me trompais et que ce n'était pas pour moi. Il faisait ça pour lui. Le fait de me voir réagir à tout ce qu'il faisait avec tellement d'effusion de joie et de me rendre aussi amoureuse de lui, ça nourrissait son égo. Il ne faisait pas ça pour le simple plaisir de me rendre heureuse et de m'offrir quelque chose que je désirais et qui me ferait plaisir. Non, c'était pour lui. Il faisait ça pour s'en vanter après, pour que je le raconte à mes amis. Je pense que les vidéos, c'était pour que je puisse montrer aux gens ce qu'il faisait. Rien de tout ça n'était pour moi.
Je veux vivre avec toi et mourir avec toi.
Est-ce que cet homme-là m'aimait? Je pense que les avis sont partagés sur cette question-là parmi ma famille et mes amis. Beaucoup d'entre eux me disent « C'est impossible qu'il n'ait pas été amoureux de toi, sa façon de te regarder, on vous a vu ensemble, c'est évident qu'il t'adorait. »
Hey, my love. Good morning.
Bonjour, mon amour. Tu vas bien? J'espère que tu as bien dormi et que tu as eu la chance de rêver de nous deux.
Quand on voit les photos et les vidéos, on lit de l'amour sur son visage et dans ses yeux. Toutes les choses qu'il a faites pour toi, c'est sûr qu'il t'aimait.
I'm going soon to the hospital again.
Je retourne bientôt à l'hôpital et je n'arrête pas de penser à toi et à combien je t'aime.
And how much I love you.
Tu es tout pour moi.
You are my everything.
L'année dernière, en septembre 2020, les procureurs suédois ont fait marche arrière et ont finalement mis Paolo en examen pour maltraitance aggravée en lien avec trois des opérations qu'il a pratiquées à Karolinska, celles d'Andemariam, de Beyen et de Yeshim Setir. Son procès aura lieu l'année prochaine.
Je suis folle de joie qu'il ait été enfin inculpé. Je reste un peu sceptique parce que je connais sa capacité à se sortir de n'importe quelle situation. La question que je me pose surtout, c'est est-ce qu'ils vont devoir le traquer et le faire extrader? Est-ce qu'il va revenir de lui-même? Quand le jour du procès va arriver, est-ce qu'il va vraiment se présenter?
Nous avons essayé de contacter Paolo pour cette histoire, mais nos messages courriels ont rebondi. Nous avons également essayé de contacter son avocat suédois, mais il ne nous a pas répondu. Pour l'instant, on ne sait pas où se trouve exactement Paolo, ni ce qu'il fait.
Sì, signora Pecchia, mi scusi tanto, sono di nuovo io, la giornalista. Volevo solo chiederle un'ultima cosa, perché non riesco a raggiungerlo io, il dottor Macchiarini, e volevo sapere...
Notre journaliste Giulia Alagna parla all'ex-femme de Paolo in Italia.
E volevo sapere... In che senso? È impossibile?
L'ex-femme de Paolo nous a dit qu'on ne le trouverait pas parce qu'il était parti très loin au Moyen-Orient. Benita pense qu'il est en Turquie. Alors, où est-il entre l'Italie, la Turquie et le Moyen-Orient? Qui peut le savoir? Et qui sait s'il viendra le jour de son procès?
Il pense qu'il n'a rien fait de mal, donc il continuera à dire qu'il n'a rien fait de mal. D'un côté, c'est possible qu'il essaye de fuir et de ne pas venir à son procès. D'un autre côté, je pense qu'il est tellement arrogant et convaincu qu'il n'a rien fait de mal qu'il aurait l'audace de venir au tribunal et de s'asseoir tranquillement, comme si le monde entier s'acharnait sur l'innocent docteur Paolo Macchiarini.
Ce que Benita sait, c'est où elle sera l'année prochaine.
Et c'est certain que je vais être là. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'irai à Stockholm pour le procès. Je serai dans cette salle d'audience.
I will be in that courtroom.
Vous avez écouté le sixième et dernier épisode de Docteur La Mort, l'homme miracle. Nous remercions chaleureusement Benita Alexander d'avoir partagé ses recherches avec nous. Retrouvez-la sur son Instagram, LoveCond. Si vous voulez nous aider à faire connaître la série, donnez-nous une note de 5 étoiles et n'oubliez pas d'en parler à vos amis. Écoutez Docteur La Mort sur Apple Podcasts ou sur toute autre plateforme de balado. Également disponible en primeur et sans publicité sur Amazon Music ou en vous abonnant à Wondery Plus sur Apple Podcasts ou sur l'application Wondery. Dans les commentaires de l'épisode, vous trouverez les liens et les offres de nos commanditaires. Merci de les encourager. Docteur La Mort a été écrit, couvert et présenté par Laura Beale. Cette version est présentée par Anne-Sophie Roy. Réalisé par Nika Singh, qui a également couvert cette histoire. Reportage additionnel par Julia Alagna. Vérification des faits par Jacqueline Coletti. Assistante de production, Fiona Pestana. Assistante de production supplémentaire, Simran Singh, Chris Siegel, Guillermo Mattioli et Melissa Duenas. Ingénieur du son, Marcelino Villalpando. Directrice de production, Lata Pendia. Supervision musicale, Scott Velasquez. Design sonore, Salt. Nos producteurs exécutifs sont George Lavender, Marshall Louis et Jen Sargent pour Wondery. La version québécoise est réalisée et mixée par Anne-Sophie Carpentier, Philippe Séguin et Bastien Gagnon La France, avec la participation de Joanie Henry, Frédéric Mockel, Dominique Plamondon, Maxime Lacasse et Charles Trahan de Cube Radio.